voix du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Avec ses 58 réacteurs nucléaires, la France est une bizarrerie mondiale. Les rapports se multiplient pour démontrer que l'État français n'a plus les moyens d'entretenir ses centrales vieillissantes. Le directeur de l'ASN, l'agence de sûreté nucléaire, a lui-même déclaré que la situation du nucléaire en France est très préoccupante. Nous ne savons pas non plus démanteler ces centrales qui fournissent encore les deux tiers de l'électricité de l'Hexagone. Quant aux déchets nucléaires, radioactifs et donc dangereux pour la santé durant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années, nous ne savons pas non plus quoi en faire. Et comme si ce tableau apocalyptique ne suffisait pas, il faut rappeler que l'énergie nucléaire fonctionne grâce à l'uranium. Or, de l'uranium, il n'y en a pas dans les sols français. Nous l'importons essentiellement d'Afrique. Le Niger fournit près d'un tiers de l'uranium dont l'entreprise Areva a besoin. Cela fait 40 ans que ce pays où l'espérance de vie ne dépasse pas les 50 ans et où le taux d'analphabétisme avoisine les 70%, cela fait 50 ans que ce pays fournit l'uranium pour l'État français, mais à quel prix? C'est ce dont nous allons parler maintenant avec nos deux invités. Al-Mustapha Alassane, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de recevoir le prix Résistance du jury international Nuclear Free Future Award pour le combat que vous menez avec votre ONG, je vais essayer de bien prononcer le nom, Agin Rinman, ça va? Je le prononce bien? Prononcez-le vous, c'est mieux quand vous
Rinman.
Ah voilà, c'est complètement différent. Et donc c'est un combat que vous menez depuis 2002 et avec nous dans ce studio, Bruno Charréron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en physique nucléaire, chef du laboratoire de la CRIRAD. La CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Vous travaillez depuis Tchernobyl, on peut dire, hein, sur les enjeux
nucléaires. La CRIRAD depuis Tchernobyl et moi, personnellement depuis 1993.
Voilà, donc une bonne expérience du domaine. Alors, vous êtes là suite au prix que vous avez reçu. Vous faites une tournée en Europe pour alerter sur la situation de la radioactivité, notamment dans la ville d'Arlit, cette ville de 200 000 habitants qui se trouve au Niger, où Areva a des mines depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes face à un public, les premières paroles que vous prononcez pour que les personnes comprennent la situation que vous vivez tous les jours sur le terrain?
Merci donc vraiment de nous recevoir sur cette antenne. Et ce que nous disons au public, et ce que nous avons envie de leur dire, qu'effectivement, il y a 40 ans, Areva exploitait sauvagement de l'uranium au Niger. Et c'est pendant 40 ans, nous, au Niger, ce que nous avons, c'est la pollution durable. Et puis, bon, il y a les pillages aussi, c'est-à-dire que pour nous, l'uranium, c'est des pillages, puisque nous ne profitons pas de cet uranium-là. Le Niger ne profite pas de cet uranium. La seule chose à laquelle le Niger profite, c'est cette pollution qui est là pour des millions d'années. Et ça, on se pose la question, comment ça va se passer?
Oui, parce que le Niger a renégocié les contrats avec Areva il n'y a pas si longtemps. Et en effet, il a été reconnu et dénoncé le fait que ce n'était pas très rentable pour le pays. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, ce qui est scandaleux, surtout dans le contrat qui a été négocié, c'est qu'Areva dit qu'elle ne va pas payer les taxes prévues par la loi nigérienne. Pourquoi? Parce que son contrat court jusqu'à 2043. Donc là aussi, vous voyez un peu cette situation qui n'est pas du tout compréhensible.
Alors pour revenir à la pollution, qui est donc votre combat, c'est en 2002-2003 que vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème sur le terrain.
En fait, en 1998, nous avons constaté la disparition de nos collègues qui travaillent dans les postes les plus exposés en fait de la chaîne de la production de l'uranium, c'est-à-dire le concassage, les foreurs, etc. Et puis, il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes qui est installé aussi chez les éleveurs avec leurs chamelles et puis les laits qu'elles donnent. Les chameaux sont en train de changer. Et nous avons aussi constaté, en fait, les difficultés qu'ont les femmes au niveau même de la ville d'Arlit. Quand elles sont en grossesse, elles ont très mal, etc. Et vous allez voir des femmes qui ont de gros ventres, elles vous donnent des enfants dont nous pensons anormales. Donc il y avait toutes ces questions qui sont, vous voulez, dans nos salons, dans nos débats. Et bon, on s'est dit qu'il faut quand même faire quelque chose pour essayer de comprendre. Et c'est comme ça que l'on a créé l'ONG Armement, pour voir un cadre légal qui nous permet de poser toutes ces questions-là. Et puis, bien sûr, dans ces années-là, il y avait beaucoup de problèmes d'uranium. Il y avait un accident qui s'est produit aussi donc, sur la route entre Agadez et Arlit. Et puis en 2003, il y a un autre qui est plus grave qui s'est produit encore à Dosso.
Alors donc, quand vous parlez d'accident, ce sont...
C'est-à-dire c'est des camions qui se renversent. Et les camions, quand ils se renversent, parce qu'à l'époque, c'est tout simplement des fûts, l'uranate dans des fûts et dans des camions. Donc les gens, les chauffeurs prenaient des transporter des gens et des vivres sur des camions. Donc l'une des premières des choses qu'on a mis à dénoncer, c'est celle-là. Parce que les vivres nous venaient sur dans des camions qui transportent l'uranate, ou bien vous allez voir des personnes sur des fûts, assis sur des fûts d'uranate pour aller à Dosso ou pour faire en tout cas des...
Alors quand vous dites uranate, ce sont des fûts d'uranium en fait, c'est ça
C'est des fûts chargés de pleines de leucate.
Donc... Alors Bruno Charreron, on a besoin d'une petite explication scientifique là.
Oui, c'est-à-dire que le minerai d'uranium au niveau de Darlit est concassé, attaqué à l'acide dans deux usines chimiques qui font ce qu'on appelle de la lixiviation, c'est-à-dire que par un processus chimique, le métal radioactif uranium va être soigneusement concentré dans une matière qu'on va appeler, selon les sites, du yellow cake, de l'uranate. Et c'est un matériau qui est vraiment très radioactif. Sa radioactivité typique, c'est 40 millions de becquerels par kilogramme. C'est-à-dire qu'un kilo de cette matière est le siège à chaque seconde de 40 millions de désintégrations qui émettent des différents types de radiations, alpha, bêta, gamma, et qui sont pour les gamma très pénétrantes. Donc ces fûts d'uranate dégagent une certaine radioactivité, non seulement à leur contact. Donc imaginez des gens assis dessus pendant des heures, c'est tout à fait choquant. Et ces fûts d'uranate émettent des radiations gamma qu'on peut détecter à des dizaines de mètres de distance.
Et donc c'est à partir de ce moment-là, en 2002-2003, que vous contactez la CRIRAD, donc qui a sa réputation de laboratoire indépendant. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, Bruno Charreron ?
Ça s'est passé en deux temps. Premier temps, 2002... Les premiers contacts qui ont eu lieu avec M. Alassane par mail, on a décidé de lui envoyer un compteur Geiger par la poste qui lui a permis de faire les premières mesures et de trouver par exemple une contamination des bas-côtés de la piste à un endroit où une femme d'ailleurs a consommé cette matière qu'ils appellent du banco, c'est une sorte d'argile qui était contaminée. Et donc devant les informations qu'il nous a transmises, on a décidé d'aller sur place dans le cadre d'une mission conjointe Sherpa, CRIRAD, en décembre 2003, et il faut dire que les compagnies minières ont tout fait pour empêcher cette mission, puisque M. Alassane a été convoqué pour annuler la mission, il a décidé de la maintenir, et nous aussi, mais par contre, à l'atterrissage à Niamey, l'équipe CRIRAD, mon collègue Christian Courbon et moi-même, nous sommes les seuls qui avons été fouillés, et nos appareils de mesure professionnels ont été confisqués. Mais... heureusement, nous avions des petits compteurs portatifs qui ressemblent à un téléphone et que la police n'a pas identifié comme tel. Et c'est pour cela qu'on a réussi à aller jusqu'à Arlit. Et là, alors que nous ne sommes restés sur place que 2 jours et demi, ayant perdu beaucoup de temps à essayer de récupérer en vain nos appareils, on a constaté une situation vraiment très grave. Premier contrôle que nous faisons sur le marché à Arlit, détection de ferraille très radioactive. Vision à distance, on voit les collines de résidus radioactifs dont on a pu analyser un échantillon qui est à 500 000 becquerels par kilo. Donc ce sont vraiment des déchets radioactifs qui sont là à l'air libre. Ça veut dire que les particules radioactives sont transportées par les vents et peuvent atteindre les populations qui vivent à quelques kilomètres. On a constaté également, en prélevant de l'eau et en l'analysant, que cette eau ne respectait pas les normes de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, du fait de teneur en uranium très importante. Enfin bref, une situation d'exposition de la population à la radioactivité vraiment tout à fait évidente. Et c'est à partir de cette époque que nous avons conduit un programme de coopération avec Agilinman pour essayer de maintenir un minimum de surveillance indépendante et de campagne de plaidoyer, de dénonciation médiatique de la situation.
Alors, Moustapha Alassane, il y a eu beaucoup de mobilisation. Greenpeace est venu en 2009 aussi, a fait une campagne. Il y a eu quand même pas mal de médiatisation. Mais si on fait un saut de 2002 à 2017, finalement, en 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation sur place aujourd'hui?
Tout à l'heure, je disais que l'uranium au Niger est sauvagement exploité. Avant de revenir sur votre question, vous avez aussi les produits chimiques qui sont abandonnés partout. Les soufres, les carbonates, etc. On a trouvé aussi des carbonates dans des maisons, donc stockés dans des maisons pour des raisons économiques. Areva a confié ces commandes-là à pas mal de personnes qui n'ont même pas de lieux de stockage. Et puis aujourd'hui, si vous prenez la route de Cotonou à Arlit, partout vous trouvez du soufre qui est abandonné dans la nature, donc avalés par des animaux, etc. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui est singé? Oui, il y a quelques réponses qu'Areva a données un peu timides. D'abord, en 2006, quand on a fait, après notre marche de 5 mai 2006, l'État du Niger a décidé d'envoyer un représentant pour voir un peu qu'est-ce que nous disons, ce que nous disons là, est-ce que c'est quelque chose de vrai ou bien on est là pour emmerder Areva. Donc ce responsable, quand il a été à Arlit, il est rentré en contact avec ces sociétés, où je crois que certainement elles ont constaté que ce que nous disons est vrai. Et là, il est sorti avec une enveloppe donc qu'on appelle le Fonds de développement durable. Ce fonds de développement durable, bien sûr, est accueilli, si vous voulez, avec beaucoup d'attentes par les mairies, etc. Mais seulement aujourd'hui, je vais dire que ce fonds est mal utilisé. Et d'ailleurs, ils l'ont réduit l'année dernière. Et quand ils l'ont réduit, les maires nous ont approchés pour essayer de dire pourquoi. Mais nous, on a dit non, vous l'utilisez mal. Donc, on ne peut pas du tout s'intéresser à votre question parce que ça n'allait pas à la population. Mais c'est Areva qui détient son argent, c'est-à-dire il présente les dossiers et puis bon, vraiment, ce n'était pas du tout...
Sérieux. Il y a eu un observatoire de la santé qui a été créé pour que les malades, parce qu'il y a de nombreux travailleurs qui sont malades, évidemment, pour qu'ils puissent se faire soigner et être reconnus comme victimes.
Madame, vraiment, je vais vous dire, si vous voulez être en bonne santé, il faut venir à Arlit. C'est le paradis de la santé là-bas. Il n'y a aucun malade. Vous pouvez aller demander parce que les hôpitaux, c'est les hôpitaux d'Areva. Les médecins sont les médecins d'Areva. Donc, à Arlit, il n'y a pas de malades, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, l'Observatoire de santé en question qui a été créé. D'abord, Areva, quand il est venu au Niger, il a proposé de créer une association non lucrative avec des organisations de la société civile et de l'État. Mais nous avons dit, mais attends, pourquoi on va être dans cette association? Et une association vit des dons et des legs. Et là, il s'agit de quelqu'un qui a contaminé les gens et la loi dit pollueur-payeur. Donc, je ne vois pas pourquoi l'association. Donc, cette association, malheureusement, n'a pas fonctionné et ne fonctionne toujours pas. Ils ont ouvert un siège à Arlit parce que c'est ce qui est prévu. Et là, ils ont totalement fermé ces sièges. Et ces campagnes trompeuses qu'ils sont en train de faire, elles sont faites par un médecin d'Areva. Ce n'est pas un autre médecin qu'ils ont trouvé.
C'est pas un médecin indépendant.
Non, c'est le médecin qui a travaillé chez Areva et qui a pris sa retraite. C'est aujourd'hui lui qu'ils ont récupéré pour faire ces campagnes-là. Donc Areva, pour moi, c'est une société qui ne respecte pas ses engagements. Parce que dans les accords, il était dit qu'ils vont faire la route Arlit-Tawa, la route de l'uranium. Mais aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ils ont signé ça en 2014. Ça n'a pas bougé d'un iota. Voilà donc ce qu'on peut dire d'Areva. Mais l'Observatoire de santé, pour nous, c'est une question qu'il faut revoir.
Bruno Chareron, vous qui êtes un observateur indépendant à la CRIRAD est reconnu pour son sérieux scientifique. Il y a des maisons qui ont été construites avec des roches qui ont été contaminées. Il y a des routes qui ont été construites avec ces roches. Vous avez pu le constater sur place. Il y a toujours des gens qui vivent dans ces maisons, qui circulent sur ces routes, même si Areva fait quand même quelques sondages et essaye de montrer qu'ils en détruisent certaines. Mais c'est quoi, 2 maisons par rapport à une quantité absolument impressionnante?
Mais d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que on dénonce, quand je dis on, c'est Hagelinman le premier en 2002, la CRIRAD en 2003, 2007, Greenpeace en 2009, de nombreuses ONG dénoncent depuis longtemps le fait que des roches radioactives ont été réutilisées à Arlit pour remblayer des pistes ou construire des bâtiments. Il aura fallu attendre 2010 pour qu'Areva, à travers une initiative qui s'appelle le Plan Compteur, s'engage à ratisser les rues d'Arlit pour détecter les points contaminés. Une centaine de points ont été détectés comme contaminés, c'est-à-dire concernés par la réutilisation de remblais radioactifs dans les rues. Ces points ont été apparemment traités. Maintenant, le problème, c'est que ces campagnes de mesures ont fait apparaître qu'il y a aussi des bâtiments qui sont radioactifs, des maisons privées, mosquées, écoles. Et Areva traîne les pieds par rapport à ça, puisque pour l'instant, seules 120 maisons ont fait l'objet de contrôles qui ont permis de découvrir que 20 de ces maisons étaient radioactives. Certaines d'entre elles ont été récemment détruites pour être reconstruites avec des matériaux non radioactifs. Mais sur une agglomération qui a entre 100 000 et 200 000 habitants selon les limites qu'on lui fixe, quel est le nombre exact de maisons aujourd'hui, au moment où on parle, qui sont susceptibles d'être radioactives? C'est une vraie question. Quelle dose on subit et subissent aujourd'hui les habitants de ces maisons radioactives? Ces doses-là ne sont pas prises en compte quand Areva évalue l'impact des activités qu'elle conduit au Niger. Donc ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que les travailleurs d'Arlit ont été exposés de façon tout à fait anormale pendant plusieurs décennies parce qu'ils n'avaient pas de protection. Aujourd'hui, ils ont heureusement un peu plus de protection, mais ils restent notablement exposés parce que vous ne pouvez pas arrêter les rayonnements gamma qui sont émis par l'uranium, ce n'est pas possible. Et les travailleurs des mines d'uranium sont d'ailleurs parmi ceux qui reçoivent les doses les plus importantes de l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Et les habitants sont exposés à la radioactivité dès l'enfance parce qu'ils peuvent vivre dans des maisons contaminées, parce qu'ils peuvent être confrontés à des ferrailles radioactives, parce qu'ils respirent des poussières radioactives et du radon, et parce qu'ils boivent de l'eau qui contient de l'uranium. Donc il est bien évident que, même si on est dans ce qu'on appelle improprement le domaine des faibles doses, on est dans des doses qui, à la longue, augmentent les risques de cancer et d'autres pathologies. Et là, on a une population qui est vraiment très exposée depuis le début par des pratiques qui sont absolument inacceptables. Et ça ne change pas à une vitesse suffisante. On s'interroge ensuite pour le futur d'Arlit. Quand les mines vont s'arrêter? Comment la population aura-t-elle accès à l'eau? Les activités d'Areva ont consommé de grandes quantités d'eau. Donc ces nappes qui sont fossiles, par endroits, les niveaux d'eau ont largement baissé. Et en plus, elles sont contaminées. Donc aujourd'hui, une partie de l'eau qui alimente Arlit est puisée à une trentaine de kilomètres. Mais quand Areva sera parti, qui aura les moyens de faire fonctionner ses pompes pour amener de l'eau puisée à 30 km? Donc la nappe aura été en partie épuisée, polluée, et on va laisser une population avec un environnement totalement dégradé. De même, qui va garantir le confinement pendant des centaines de milliers d'années, des dizaines de millions de tonnes de résidus radioactifs qui sont aujourd'hui à l'air libre? Là, il faut absolument que l'État français, à travers Areva, donne des garanties à la population d'Arlit.
Alors justement, il y a des précédents. Nous sommes allés par exemple au Gabon, à Mounana, c'est dans le Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon. C'est là où 25 000 tonnes d'uranium ont été extraites. En 1999, la COMUF, la Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville, qui était une filiale d'Areva, décide de cesser l'exploitation, faute de réserves économiquement exploitables, ce qui arrivera certainement un jour à Arlit. Aujourd'hui, selon les responsables de la COMUF, les travaux de réhabilitation et de démantèlement du site seraient pratiquement finis et conformes aux réglementations internationales. Mais là aussi, les mineurs et des ONG gabonaises et françaises ne font pas le même constat. Non seulement le réaménagement du site de Mounana serait loin d'être terminé, et l'exploitation du minerai aurait eu un impact direct sur la santé des mineurs qui travaillaient sans protection. Igor Strauss est allé enquêter.
J'aurais voulu que vous veniez le matin et puis on fait tout le tour à pied, vous allez voir.
Moïse Mouélé Massala est représentant des anciens travailleurs de la COMUF, la compagnie des mines d'uranium de Franceville.
Ils ont réhabilité une minime portion. Mais là où ils n'ont pas travaillé, ils ne nous ont pas amenés. C'est nous à vous amener sur les parties qu'ils n'ont pas travaillé.
Mais elle se trouve où ces parties?
C'est dans Mounana. Partout là, si on fouille, on va trouver le sable de l'usine. Si on creuse là, oh, ils ont rempli les abords. Mais le lit de la rivière, ils ne l'ont pas touché. Vous voyez là où est le panneau là?
Ouais.
On dit que c'est interdit de pêcher. Et ici, on ici, autorise de pêcher. Mais ça ne fait même pas 5 mètres, 10 mètres d'intervalle. Est-ce que le poisson qui est en bas là-bas n'arrive pas ici? C'est le même poisson qui circule. Tout partout là, c'est mauvais, c'est pollué.
Philippe Drouot, directeur général de la COMUF, la compagnie des mines d'uranium de Franceville.
Moi, je maintiens que tout ce qu'on a laissé au public, tout ce qui est ouvert, il n'y a pas de conséquences sur l'eau.
Alors, il y a des panneaux, mais ces panneaux avertissent les habitants. Le poisson dans la rivière, lui, il ne sait pas qu'à gauche, c'est radioactif et à droite, ça ne l'est pas.
Alors, Ce que l'on fait, en fait, c'est tout bête. C'est on va pêcher, on fait des campagnes de pêche. On s'aperçoit parfaitement qu'il faudrait consommer une mastelle de poissons sur l'endroit le moins indemne de radiologie, que ça serait absolument, ça ne peut pas tenir. Hein, donc il n'y a pas de risque là-dessus.
Pour vous, très sincèrement, est-ce que vivre à Mounana aujourd'hui présente un risque pour la santé?
Moi, je vivrais à Mounana sans aucune difficulté. Moi, ça ne me pose aucun problème, y compris avec des jeunes enfants. Hein, donc j'ai aucun problème.
Là, je vais vous amener vers la passerelle là-bas, où rien n'est fait, où tout est encore brut. Là, vous voyez que vous êtes au bord de la rivière là, vous n'êtes pas dans l'eau, vous êtes au bord de la rivière là, et il y a la boue, et vous voyez ce que le compteur donne.
Donc, effectivement, j'ai mis le compteur Gégère par terre, oui. On est déjà à 5,09,
c'est énorme.
Ce qui fait plus de 50 fois la norme.
Oui, donc ils ont à réhabiliter cette zone-là. Je crois que la forêt là, les gens ne fréquentent pas. Or que les gens font la chasse ici, les gens font la pêche ici, les gens font les plantations ici.
Ça par contre, il faut arrêter de le pêcher et arrêter de...
Si moi j'arrête de pêcher le poisson ici, Comif me donne quoi? La population continue à pêcher parce que la précarité. Le ventre enflammé n'a point d'oreille.
Liline Douna Depno, administrateur du CNPPRI, le Centre National de Prévention et de Protection contre les Rayons Ionisants, c'est l'organisme de réglementation en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Notre rôle, c'est surtout, c'est un rôle de contrôle réglementaire en fait.
Dans combien de temps vous pensez que Areva pourra se désengager, que la situation sera suffisamment stable pour
c'est
qu'il
pas
y ait...
demain la veille, hein.
C'est pas demain la veille?
Non, c'est pas demain la veille qu'Areva va se désengager de ce site-là.
Marcona, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest, créée en 1998, prix Goldman 2009, équivalent au prix Nobel pour l'environnement.
Quand on a fermé l'usine en 1999, qu'est-ce qu'on a fait? On a mal géré les déchets. On les a mal gérés, on les a disséminés partout dans la nature, dans une grande carrière, ainsi de suite. Ben, je ne pense pas qu'en Europe, on aurait fait la même chose en 1999. Donc ce qu'on ne peut pas faire en France, on ne peut pas venir le faire en Afrique. Ce ne sont pas des analphabètes. Et nous n'allons plus accepter cette collusion entre les dirigeants, les hommes politiques gabonais et les responsables de ces multinationales. C'est fini. C'est fini.
À Moustapha Alassane, comment est-ce que vous réagissez à l'écoute de ce reportage qui a lieu à Mounana, au Gabon, vous qui vous battez depuis 2002 contre les conséquences de l'exploitation de l'uranium au Niger, à Arlit?
Ça ne m'étonne pas quand le monsieur dit que lui, il vivrait avec ses enfants. Parce que je suis témoin d'un certain nombre de choses. Les responsables d'Areva, à un certain moment, ils ne boivent pas l'eau d'Arlit, mais ils font venir l'eau, soit d'Iferon ou d'Agadez. Mais ils laissent leur famille boire cette eau. Donc ce genre de pratiques, ça ne m'étonne pas de certains responsables d'Areva. Ils sont capables de tout, malheureusement. On a des responsables devant nous qui ne sont pas conscients de ce qui est devant nous. C'est-à-dire ces dangers-là, apparemment, à Areva, ils sont pas conscients. Et à chaque fois, c'est le même discours qu'ils tiennent. Par exemple, il y a un des hauts responsables d'Areva qui est monté sur la dune d'Iteril, qui contient 80% de la radioactivité. Il met son pied, il disait non, il y a rien parce que c'est ancré, il n'y a pas de poussière. Mais s'il n'y a pas de poussière, et les radons, qu'est-ce qui va l'arrêter?
C'est un gaz.
Donc, qui peut circuler à tout moment. Donc, vraiment, ils ont des discours, des fois, je ne sais pas. Moi, je vais dire quelque chose. Que les pro-nucléaires, il faut leur dire que, de toute façon, les ressources naturelles, elles vont se terminer. Maintenant, d'autre part, il y a quelque chose aussi qui me siphonne sérieusement. Comment comprendre les autorités qui laissent la radioactivité rentrer chez eux librement? Ils amènent de la radioactivité, c'est-à-dire l'uranium, qu'ils amènent chez eux pour faire de l'énergie et faire des malades, parce qu'aujourd'hui, l'uranium, tout le monde est conscient que c'est un problème de santé mondiale. Et ils amènent de la radioactivité pour leur population actuelle et les populations futures. Mais je pense qu'il y a de quoi interpeller un peu ces autorités. Or, on peut faire de l'énergie sans cette histoire d'uranium. Moi, je suis un profane, mais je me dis, on a fait tourner des turbines avec de l'eau et du charbon. Pourquoi avec la quantité de soleil on ne peut pas fabriquer une turbine qui peut tourner avec du soleil et fournir suffisamment d'énergie? Donc vraiment, c'est pas des idées qui manquent, mais je pense qu'il y a une mauvaise foi et les gens sont en train de polluer la planète sur laquelle nous vivons, en train de chercher d'autres planètes pour vivre là-bas. Mais moi, j'appelle la conscience des gens de protéger la planète sur laquelle nous vivons. Elle nous donne à manger, elle nous donne des légumes, elle nous donne de la nature. On est sûr sur cette planète-là. Donc il faut vraiment la protéger. Mais le problème d'uranium, c'est que si on continue à l'exploiter, on ne peut pas protéger cette planète qui est extrêmement indispensable pour nous, j'allais dire.
Merci beaucoup à Mustapha Alassane d'être passé dans ces pas du vent. Bruno Charréron, le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est difficile. Moi, ce qui me révolte le plus dans ces affaires, c'est bien sûr la pollution, la contamination, le fait que des enfants, dès leur plus jeune âge, soient exposés à cette radioactivité qui va avoir des conséquences sur leur santé à long terme. Et la deuxième chose qui est vraiment insupportable, ce sont les mensonges d'Areva. C'est-à-dire le fait de prendre le citoyen, qu'il soit nigérien, qu'il soit français, qu'il soit gabonais, le prendre pour un imbécile. Quand nous démontrons à la CRIRAD par des analyses que l'eau est contaminée et qu'Areva répond « Areva, nous faisons des analyses régulières, il n'y a aucune contamination », qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? C'est un mensonge. Et puis surtout, que l'État s'intéresse à ces problématiques. On ne peut pas, moi j'ai honte d'être français quand je vois ce qu'on a laissé comme contamination au Gabon, la COMUF, quand je vois la situation aujourd'hui au Niger, c'est vraiment inacceptable.
Merci à tous les deux d'être passés dans cette émission. Évidemment que nous mettrons les liens vers vos associations sur la page internet de l'émission pour que vous puissiez en savoir plus. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à nous contacter, soit par mail, c'estpasduvent@rfi.fr, et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, hashtag c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.